Sachez-vous ainsi de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, dit-il. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De plus, l'apôtre Paul affirme avec fermeté, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La Bible affirme avoir été inspirée mot par l'Esprit Saint. Enseigner autre chose est tout simplement se rendre coupable de ce modernisme dont on peut chaque jour constater les terribles ravages et qui a notamment pour but de vouloir adapter la Bible à la philosophie humaine du moment. Ces spéculations toutes gratuites ne servent qu'à miner la foi dans les Écritures et faire croire à l'humanité que Dieu doit s'adapter à l'homme du XXe siècle. Cependant, il faut constater que la division des Écritures est souvent mal comprise. Et cela même chez ceux qui croient fermement à l'inspiration verbale de la Bible. Certains en font des gorges chaudes, en prétendant qu'il est virtuellement impossible de s'entendre et de comprendre la parole de Dieu de la même manière. Mais l'apôtre Paul déclare en parlant à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » En s'adressant aux Éphésiens, il dit également, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La Bible affirme donc que l'on peut la comprendre, mais que pour cela, il ne faut pas être inconsidéré. Si nous comprenons la Bible, nous devons la comprendre de la même manière. C'est d'ailleurs ce qui fait dire encore à Paul, je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas l'énorme différence qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils ne comprennent pas sous la juridiction de quelle alliance nous vivons aujourd'hui. Et ils n'arrivent pas, par conséquent, à faire la distinction qui existe entre les deux. Ils divisent ou séparent les deux testaments d'une manière tout arbitraire. Et cela les amène, évidemment, à formuler des doctrines pour le moins fantaisistes. Écoutons ensemble ce que dit le Saint-Esprit sur ce point vital. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Oui, la Bible enseigne que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mais que la loi a été donnée par Moïse. La loi de l'Ancien Testament a été accomplie par Christ et a par conséquent été abrogée. Elle ne dirige plus la vie de chacun en tant que législateur souverain, mais subsiste toutefois encore pour notre instruction, nous dit la Bible. L'ordre établi par la nouvelle alliance d'évangile de Christ est entré selon le livre des Actes en vigueur 50 jours après la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ce jour de la Pentecôte que la grâce et la vérité donnée par Jésus-Christ furent prêchées pour la première fois dans toute leur force salvatrice. L'ère du sang, des taureaux et des boucs est définitivement révolue et a fait place au sang précieux de Jésus qui seul peut laver nos péchés et nous amener à servir la cause du Dieu vivant. Nous vivons maintenant sur la nouvelle alliance, et c'est de ce côté-ci de la croix, dans les pages du Nouveau Testament, que se trouve l'entière et unique volonté de Dieu en ce qui nous concerne. Tous les livres de la Bible contiennent de grands et éternels principes, mais seul le message du Nouveau Testament renferme les ordres et les enseignements par lesquels Dieu a choisi de nous conduire à la vie éternelle grâce au sacrifice du Seigneur Jésus. C'est dans le livre aux Galates que se trouve le cœur même de la question du salut. C'est ici que l'apôtre Paul Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La Bible nous dit ce que nous devenons des fils de Dieu, membres de la famille de Dieu. Elle nous dit comment le devenir, par la foi. La Bible révèle où nous le sommes, en Christ, son corps, son Église. Et finalement, quand, c'est-à-dire lors de notre baptême, qui est le moment où nous revêtons Christ. Et je viens d'utiliser les mots de Dieu et non les miens. La Bible enseigne clairement que nous ne sommes absolument pas sauvés par la foi seule, mais que nous ne devenons enfants de Dieu que lorsque notre foi nous pousse à être baptisés en Christ, en pleine obéissance à son évangile. Il y a des prédicateurs qui vous diront que votre salut repose entièrement sur la grâce et qu'aucune œuvre d'obéissance n'entre en ligne de compte dans la conversion à Christ. Cette fausse doctrine est fermement réfutée par de nombreux versets bibliques qui mettent précisément l'accent sur l'absolue nécessité d'une obéissance totale et inconditionnelle. Jésus dit par exemple, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Paul nous avertit également qu'il arrivera un jour où le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Il est horrifiant de constater que ce qu'enseignent beaucoup de prédicateurs modernes est diamétralement opposé au testament même, au message même du Nouveau Testament. Lorsque l'Église de Christ a été établie le jour de la Pentecôte, des milliers de gens ont crié « Homme frère, que ferons-nous ?» Et la Bible nous dit que Pierre leur répondit tout simplement « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Chers amis, est-ce là ce qu'on vous prêche ? Vous enseigne-t-on que l'homme perdu doit se repentir et être baptisé pour le pardon de ses péchés? Honnêtement, le message de votre prédicateur est-il le même que celui que prêche Pierre en Actes, chapitre 2?
Alléluia, alléluia, alléluia.
Méditation biblique. Vous avez offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Et quelqu'un qui ne porte pas d'autres noms, qui ne sont attachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres sont autorités dans nos vies. Parlons de ce que la Bible dit et de notre philosophie à propos de ce qu'elle nous dit. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex. Et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398 31086 Toulouse Cedex France. Au revoir. À la semaine prochaine. Même heure.